Dans un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Dit-il que je travaille loin des canons, je vis en liberté.
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 31 mars, il est 11h30. Regardons autour de nous. Les guerres qui sévissent un peu partout dans le monde continuent de chasser des milliers d'enfants sur les routes, avec ou sans leur famille, pour se réfugier dans nos pays occidentaux. Leur vulnérabilité est inchangée, leur vie bouleversée, les mauvais coups sont multiples. Poursuivis par la faim, ils mendient sur nos places ou au coin de nos feux rouges. La guerre à travers eux et parmi nous. Les propos que je viens de lire sont extraits d'un article publié dans le dernier numéro de L'Idée Libre. L'Idée Libre, cette publication de la Fédération nationale de la libre pensée, je vous en ai souvent parlé, et je vous rappelle que sa principale caractéristique est de rassembler, dans chaque numéro, autour d'un thème central, les contributions de 10 ou 12 auteurs qui constituent ainsi le dossier de chaque numéro de l'Idée Libre. Ce court extrait que j'ai donc lu provient du dernier numéro de l'Idée Libre et le thème, le dossier de ce dernier numéro de l'Idée Libre, c'est « L'humanité n'a qu'un chemin, la paix ». Au moment où la marche à la guerre, la course à la guerre, devrais-je plutôt dire, occupe tout l'espace médiatique, dans lequel l'armée, sic, des commentateurs aux ordres, ne cesse de déverser sur un ton péremptoire des propos guerriers, des élucubrations justifiant les centaines de milliards à dépenser pour la guerre, et parfois, pour certains des commentateurs, en rajoutant même aux notes gouvernementales transmises dans les rencontres avec la presse, la grande presse, comme on disait, la grande guerre. Ces mêmes journaleux qui ne cessent d'insulter, de diffamer, de calomnier, de tenter de marginaliser celles et ceux qui combattent contre la guerre, pour la paix, et tout spécialement quand ils manifestent pour la défense du peuple palestinien. J'en reviens à cet important numéro de l'Idée Libre. La situation de course à la guerre justifie pleinement que je choisisse de vous parler de ce numéro de l'Idée Libre. Mais il y a une autre raison. Par un côté plus personnel, je n'ai pas pour habitude d'aborder les sujets par un aspect personnel, mais de manière exceptionnelle et parce qu'il s'agit d'une personne exceptionnelle, je fais exception. Les propos cités en exergue de cette chronique sont donc de Michel Singer, auteur de l'un des articles de ce dernier numéro de L'Idée Libre, « Les enfants et la guerre », c'est le titre de cet article de Michel Singer. Bien peu d'entre vous la connaissent. Michel Singer est décédé brutalement il y a une dizaine de jours, et avec mon épouse, vendredi dernier, nous représentions à ses obsèques le groupe Fred Zeller, obsèques célébrées dans le Val-d'Oise. Michel a été une militante exemplaire, défenseur infatigable, engagé activement dans de multiples combats, et j'en citerai deux, pour la défense des droits des femmes, pour la défense des enfants, c'est-à-dire la défense des plus fragiles, des plus précaires, des plus vulnérables. J'ai choisi, pour lui rendre hommage, de vous lire en entier, intégralement, l'article qu'elle a écrit pour l'Idée Libre. Donc, je rappelle le titre de son article, « Les enfants et la guerre ». Touchés par les bombardements, les privations alimentaires, les séparations familiales, les deuils, les enfants sont, comme tous les civils, frappés dans leur corps et dans leur esprit par la violence. Mais celle-ci n'est ni toujours de même nature, ni ne recouvre les mêmes enjeux. Confronter la diversité des situations enfantines est le propos d'une exposition à la contemporaine bibliothèque de l'Université de Paris-Nanterre, que je vais vous présenter, nous dit Michel Singer. C'est une exposition qui était possible de voir donc entre le 20 novembre 2024 et le 15 mars 2025, donc c'est maintenant terminé. Enfants en guerre, guerre à l'enfance, de 1914 à nos jours, donc à la contemporaine bibliothèque donc de Nanterre. Malgré tout, je reprends donc le texte de Michel Singer. Malgré tout, je reste sur ma faim en la parcourant car elle ne concerne pas les conflits en cours. Pourtant, les images récentes d'Ukraine et de Palestine ont fait ressurgir le spectre d'une guerre dans la guerre, menée contre les enfants. Aucune guerre ne ressemble exactement à une autre et aucun enfant ne vit la même épreuve. La réalité historique ne nous permet pas de penser une universalité de l'enfance en guerre. Pour autant, les textes et les images rassemblés dans l'exposition montrent une communauté d'expériences. En retraversant un siècle de conflits à hauteur d'enfants, l'exposition met en évidence que les plus jeunes constituent un objet historique à part entière, tant leurs manières de vivre la guerre sont spécifiques et différentes de celles des adultes. Ils vivent la guerre à leur échelle, dans leur famille, dans leur maison, autrement dit dans leur univers. Leur rapport au temps de la guerre n'est pas le même que celui des adultes et cela marque leur façon de vivre le conflit et aussi, par la suite, de le représenter. L'endoctrinement. Depuis 1914, les gouvernements belligérants cherchent à mobiliser les jeunes générations. Tout ce qui constitue l'univers enfantin se trouve rapidement contaminé par le patriotisme et la haine de l'ennemi. Dans leurs écrits, dans leurs dessins, transparaissent les codes et les images dont ils sont abreuvés. Cela se double souvent d'un endoctrinement idéologique à outrance et d'une véritable militarisation des enfants. Parmi les exemples exposés, des albums de famille des jeunes martyrs iraniens de la guerre Iran-Irak 1980-1988 sont présentés. En effet, l'élan révolutionnaire ayant entraîné des désertions en masse ainsi que des purges dans l'ancienne armée impériale un an avant l'entrée en guerre, l'armée iranienne se trouve vite en difficulté et les rangs des tranchées doivent être comblés par l'enrôlement massif de très jeunes hommes. Parmi eux se trouvent aussi des adolescents et même de jeunes garçons pas encore sortis de l'enfance, avec ou sans le consentement de leurs parents. Ils vont principalement servir de chair à canon et accomplir des missions de déminage en marchant à pied les uns à la suite des autres sur des sols remplis d'explosifs pour faciliter un accès différé à l'artillerie. Ces albums montrent un monde qui ne leur laisse que peu de choix. Rejoindre le front et les combats ou bien rester dans l'humiliation de l'arrière et l'ennui de l'inaction avec les femmes et les vieillards. On ne découvre la violence de la guerre qu'au temps des funérailles. Élevé au rang de martyr, le combattant n'est finalement plus considéré comme un enfant, puisque la bravoure dont il a fait preuve le place entre le statut d'adulte et celui d'éternel jeune homme. Évacué. Avec la guerre, un très grand nombre d'enfants ont aussi été confrontés au bouleversement total de leur vie quotidienne. Démantèlement de la structure familiale, destruction des lieux repères comme la maison ou l'école, découverte de la faim et de la soif. Menacés par les bombardements, jetés sur les routes lors des exodes, parfois séparés de leurs parents, parfois perdus, évacués de gré ou de force, les enfants sont les plus vulnérables. L'exposition s'arrête longuement sur les évacuations à la campagne ou vers des pays neutres pour mettre les enfants hors des dangers de la guerre. Mise en œuvre par des organisations humanitaires comme le Comité international de la Croix-Rouge, ces transferts d'enfants veulent symboliser la solidarité. Si tous les enfants ne sont pas les bienvenus dans les régions d'accueil, certaines voix s'élèvent aussi dans les pays de départ contre ces programmes, car les enfants risquent d'oublier leur langue, leur histoire et leur famille. Par exemple, lors de la guerre civile espagnole, la majorité des enfants évacués en France ne retournent pas en Espagne ou ne retournent en Espagne qu'une fois la guerre finie, en 1939, ce qui est déjà bien long. Mais pour d'autres petits évacués, la rupture des relations diplomatiques par exemple, vers le Mexique et l'URSS, rend ses retours impossibles jusque dans les années 1950. Dès le début des bombardements, durant la Seconde Guerre mondiale en Grande-Bretagne, 1,5 million d'enfants britanniques sont envoyés à la campagne. La distribution des enfants est comparée à un marché aux bestiaux. Les fermiers choisissent les garçons robustes et les femmes des jeunes filles qui aideront aux tâches domestiques. Très vite, les « sales petits évacués » entre guillemets, sont réputés couverts de poux et de galles, mal élevés et chapardeurs. Les évacuations d'enfants ont été nombreuses durant la Seconde Guerre mondiale, avec des expériences contrastées, des cas de mauvais traitement incontestables, des traumatismes psychologiques importants et donnant lieu par la suite à des traitements psychiatriques. Les experts de l'enfance sont de plus en plus unanimes pour condamner ce type d'initiative. Les dangers psychologiques causés par les séparations sont bien trop graves et la rupture du lien avec la mère est inéluctablement traumatique. La guerre d'indépendance algérienne. Il s'agit d'un monde colonial, profondément sclérosé. Les enfants algériens sont marqués par les ségrégations, les injustices et les discriminations qui frappent aussi les adultes. L'absence d'école, à la veille de la guerre en 1954, en est un des symboles les plus criants. D'autre part, les enfants, surtout dans les zones rurales ciblées par la répression de l'armée française, ont faim. L'exposition présente de nombreux témoignages d'enfants dont la mémoire est imprégnée par les souffrances liées aux restrictions alimentaires. Certains ont déployé des stratégies pour se procurer de la nourriture et survivre, telles que le vol. La fouille des poubelles est aussi une pratique régulière partout. Citation de l'exposition, donc. « On bouffait tout ce que les soldats jetaient dans les poubelles. Je me souviens, on a mangé de la purée sale jetée dans un fût. Tout ce qu'elle ramasse comme saleté, on en mangeait à pleine main. » Fin de citation. Dans les régions où le déchaînement de la violence est le plus marqué, ou bien pour couper tout contact avec les maquisards, l'armée française a recours au déplacement forcé. Les petits Algériens connaissent l'entassement dans des installations précaires où promiscuité et insalubrité favorisent les maladies et la surmortalité infantile. Certains sont contraints à l'exil vers la frontière tunisienne et, même si leur famille est épargnée, ils sont témoins de la mort autour d'eux, comme l'attestent de nombreux dessins et récits collectés après la guerre. Les enfants apprennent à se taire et à cloisonner ce qu'ils ont vu, contraints à la discrétion contre l'ordre colonial. Les génocides. Le crime de génocide repose sur une intentionnalité d'extermination qui vise tous les membres d'un groupe humain et tout particulièrement les enfants. Les bourreaux veulent annihiler toute reproduction possible par le biais des jeunes générations. On veut les effacer en faisant disparaître non seulement les corps, mais aussi l'identité, la culture, les héritages dont ils sont les porteurs. Qu'il s'agisse des Arméniens, des Juifs d'Europe, des Cambodgiens ou des Tutsis du Rwanda, on remarque que la possibilité de survie des enfants est extrêmement précaire et que le traumatisme est majeur. Au Rwanda, au printemps 1994, les enfants représentent 35% des victimes dans le dénombrement total, rapport final de Kigali 2004. Et il ne s'agit que de jeunes enfants de 0 à 14 ans. Le TPIR, Tribunal pénal international pour le Rwanda, rend compte de la présence massive des enfants dans les fosses communes. Fantasmés comme autant de futurs combattants, les enfants représentent le monde ennemi à abattre. La rupture définitive de la filiation par l'assassinat en masse des plus jeunes est indissociable du sort des femmes soumises à des viols systématiques, des sévices sexuels ou des éventrations. Il faut rompre définitivement la filiation des Tutsis. Confrontés à la mort, les enfants basculent dans un monde régi par des règles inversées, la violence inouïe, la survie au milieu des cadavres. Le génocide ne s'arrête pas à la fin des massacres. Des enfants sans nom, sans lieu de naissance, sans lien d'ascendance, dans un pays où n'existe pas des patronymes, peuplent les orphelinats. Il n'y a pas suffisamment de place dans les centres et les orphelins et orphelines se regroupent pour former des familles d'enfants, à la tête desquelles des chefs de ménage assument une parentalité précoce. En 1999, 249 foyers étaient placés sous la responsabilité d'un enfant de moins de 14 ans et 2000 foyers avaient pour parent un jeune de 15 à 19 ans. De nombreux enfants n'ont jamais retrouvé les traces de leurs parents et vivent cette perte irrémédiable de manière déchirante. Guerre à l'enfance. Et là, c'est le passage que je vous ai lu en exergue à cette chronique. Regardons autour de nous. Les guerres qui sévissent un peu partout dans le monde continuent de chasser des milliers d'enfants sur les routes, avec ou sans leur famille, pour se réfugier dans nos pays occidentaux. Leur vulnérabilité est inchangée, leur vie bouleversée, les mauvais coups sont multiples, poursuivis par la faim, ils mendient sur nos places au coin de nos feux rouges, la guerre à travers eux et parmi nous. Pensons aux enfants et adolescents ukrainiens déportés en territoire russe pour y subir une « rééducation patriotique », entre guillemets. Autrement dit, pour les couper de leurs racines ukrainiennes et de leurs leur imposer, parfois au moyen d'adoption illégale, une identité russe artificielle. Le chercheur américain de l'université de Yale, Nathaniel Raymond, évoque 25 000 à 30 000 enfants des territoires ukrainiens occupés déplacés de force. La Russie exerce une politique ciblée visant les enfants dans le but d'anéantir l'identité ukrainienne et les préparer à devenir des soldats. Pensons au sort. Des milliers d'enfants gazaouis disparus sous les bombes israéliennes. À Gaza, un enfant est tué ou blessé toutes les 10 minutes, c'est-à-dire 3 fois pendant le temps de cette chronique. L'UNICEF parle d'un enfer sur terre pour 1 million d'enfants qui y survit, au bord de la famine, dénutris et malades, l'endroit le plus dangereux au monde pour un enfant. Fin de citation de l'UNICEF. La volonté d'effacement de l'identité palestinienne se réalise par la guerre totale, mais aussi par la destruction massive des écoles, des universités, des bibliothèques, l'anéantissement de l'histoire, l'effacement de la culture afin de rendre impossible toute perspective d'avenir à la jeunesse. Par le ciblage délibéré des enfants, le processus d'annihilation est mené jusqu'au bout. L'enfant est visé en tant qu'enfant. Voilà, donc c'était le texte intégral de l'article de Michel Singer, publié dans le dernier numéro de l'Idée libre. Et à travers cette lecture, j'espère simplement que vous avez fait connaissance, un tout petit peu connaissance avec Michel Singer, avec ce qu'elle était réellement, défenseur donc en particulier des enfants. Vous avez fait connaissance un tout petit peu, seulement un tout petit peu, mais j'espère suffisamment pour se dire qu'il faut continuer sans relâche, qu'il faut faire plus, qu'il faut faire mieux, que seul le sort fait à l'enfance suffit et doit suffire à tous pour nous guider dans notre action résolue contre la guerre. Affirmons avec l'écolier de Gentium qui brandit le poing en disant « Maudite soit la guerre ». Avec lui, disons « Maudite soit la guerre ». Maudite soit toutes les guerres. Maudit soit les va-t-en-guerre. Maudit soit celles et ceux qui en appellent à l'économie de guerre, avec les centaines de milliards déboursés pour la guerre, détournés de l'action sociale. Faisant ainsi précéder le désastre des bombardements d'un désastre social. Je vous propose maintenant d'écouter donc le choix musical lié et associé à cette chronique et je vous propose Charles Aznavour, Les enfants de la guerre, et je vous cite avant qu'on écoute Charles Aznavour un passage du texte de cette chanson. Les enfants de la guerre ne sont pas des enfants, ils ont vu la colère étouffer leur chant, ont appris à se taire et à serrer les poings quand les voix mensongères leur dictaient leur destin.
Les enfants de la guerre ne sont pas des enfants. Ils ont l'âge des pierres, du fer et du sang. Sur des larmes de mer, ils ont ouvert les yeux. Par des jours sans mystère et sur un monde en feu. De la guerre ne sont pas les enfants. Ils ont connu la terre à feu et à sang. Ils ont eu des chimères pour aiguiser leurs dents et pris des cimetières pour des jardins d'enfants. Ces enfants d'orage et des jours incertains qui avaient le visage creusé par la faim ont vieilli avant l'âge et grandi sans secours, sans toucher l'héritage que doit léguer l'amour. Les enfants de la guerre ne sont pas des enfants. Ils ont vu la colère étouffer leur chant, ont appris à se taire et à serrer les poings. Quand les voix mensongères leur dictaient leur destin, les enfants de la guerre ne sont pas des enfants. Avec leurs mines fières et leurs yeux trop grands, ils ont vu la misère recouvrir leurs élans et les mains étrangères égorger le printemps. Ces enfants sans enfance, sans jeunesse et sans joie, qui tremblaient sans défense, de peur et de froid, qui défiaient la souffrance, mais taisaient leurs émois, qui vivaient l'espérance, sont comme toi et moi, des amants de misère. De malheureux amants, aux amours singulières, aux rêves changeants, qui cherchent la lumière, mais la craignent pourtant, car les amants de la guerre sont restés des enfants.
En conclusion à cette chronique, qui est donc dédiée à la paix, je voudrais simplement vous lire l'introduction que fait Pierre Roy, historien, membre important de la Fédération de la Libre Pensée, et qui a coordonné ce numéro de l'Idée Libre. Je rappelle le sujet, l'humanité n'a qu'un seul chemin, la paix. Le grand historien du mouvement ouvrier français Alfred Rosmer a écrit, citation, un cynique dirait que les peuples qui se battent n'ont pas besoin de vérité mais d'obus, et l'homme d'État jugé le plus fort est justement celui qui sait le mieux mentir. Après 1870, les patriotes professionnels restaient hypnotisés sur la guerre d'hier et songeaient à la revanche, croyant sottement que toute guerre répète celle qui l'a précédée. Par calcul ou par sottise, ils ne voulaient pas ou ne pouvaient pas voir que le conflit nouveau, qui cependant allait s'approfondissant régulièrement sous leurs yeux, ne serait en aucune façon une réplique de la guerre franco-allemande de 1870-71. Fin de citation. Ces lignes de Rosmer sont précieuses du point de vue de la méthode et des erreurs à éviter quand aujourd'hui, en ce début d'année 2025, il nous faut réfléchir à la situation internationale. La part de l'inédit est considérable, probablement décisive, et en même temps il y a des enseignements à tirer des épreuves antérieures que furent la Première Guerre mondiale et la Seconde. Ce serait enfoncer des portes ouvertes que de souligner la différence entre les deux guerres mondiales qui se sont produites au XXe siècle. Certes, d'un point de vue général, on voit bien dans les deux cas le déchaînement d'une violence inouïe dont les perfectionnements technologiques ont été porteurs. On est en droit de penser que la perspective d'une troisième guerre mondiale s'alimente inévitablement dans l'imaginaire de tout être humain contemporain, des souvenirs des deux premières accessibles dans les livres, les films, les représentations innombrables qui en existent. Pour sa part, l'auteur de ces lignes doit à son âge très avancé d'avoir vécu dans un bombardement, celui du 18 mai 44 sur Saint-Étienne, ayant provoqué la mort de plus de 1000 personnes. Ce sont des images visuelles et sonores ineffaçables. Et il est inévitable que celles et ceux qui ont connu une situation de cet ordre l'aient toujours en tête quand une similitude de causes induit dans leur imaginaire la perspective d'une répétition aggravée dans un conflit universel encore plus totalitaire, encore plus destructeur de vie et de santé humaine, et destructeur aussi, en termes purement matériels, d'infrastructures diverses dont le rôle civilisationnel est incommensurable. Et Pierre Roy conclut donc l'introduction de ce numéro d'Idées Libres en disant « C'est pourquoi il n'est jamais trop tôt pour tirer la sonnette d'alarme, il est même impérieux de le faire, car c'est avant le déchaînement du pire que le pire peut être évité. » Et il dit « C'est le but de ce numéro de l'Idée Libre que de le rappeler. Bonne lecture. » Donc c'est signé Pierre Roy. Voilà. Donc nous en arrivons à la fin de cette chronique. Et je rappelle donc que ce numéro d'Idées Libres, dont le titre du dossier est « L'humanité n'a qu'un chemin, la paix ». Oui, l'humanité n'a qu'un chemin, qu'un seul chemin, celui de la paix. Et donc, l'ensemble de cette émission constitue un hommage à notre ami et camarade Michel Singer, décédé il y a une dizaine de jours, défenseur infatigable, en particulier de l'enfance, et qui a, dans ce numéro de l'Idée Libre, sur lequel je reviendrai dans de prochaines chroniques, écrit l'article dont je vous ai donné lecture, donc « Les enfants et la guerre ». Voilà. Avant de vous quitter, je vous rappelle que l'initiative de la Libre Pensée de Dordogne Groupe Fred Zeller pour samedi 5 avril, une soirée blues sur des sujets finalement dans lesquels on va retrouver des points communs. Donc c'est une soirée blues, une conférence débat, le blues et les combats d'émancipation des Noirs américains. On sait le prix payé par la jeunesse noire africaine dans le combat d'émancipation. Et donc, cette soirée du 5 avril, à partir de 18h, salle de la Rivière à Montancé. Les inscriptions sont closes ce soir et on est quasiment au complet. Je rappelle, la réservation est obligatoire au 0601 88 87 62. Donc, la soirée, conférence débat, le blues et les combats d'émancipation des Noirs américains. Discussion, conférence débat introduite par Philippe Besson, libre penseur, rédacteur de l'Idée Libre, coordinateur du numéro d'Idée Libre autour du blues. Bluesman, guitariste et chanteur Nikos fera l'interprétation qui va illustrer, disons, cette soirée blues dans la partie concert qui se conclura donc pour cette soirée par un buffet dînatoire. Une participation de 20 euros est demandée donc pour couvrir l'ensemble des frais. Rendez-vous samedi pour ceux qui viendront à cette soirée blues et lundi prochain pour notre prochaine chronique du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord.
En forgeant un soc de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine, dès lundi 11h30.
elle tient ton glaive bleu.